Jambo.
Jambo sana.
Unafanya meeting kwa barabara?
Tuko na zungumzo.
Je m'appelle Gakuru Sebagenzi Johnson, au PJ du commissariat Keshero.
Keshero est un quartier situé dans l'ouest de Goma où les habitants s'arrangent pour ne pas rentrer tard à la maison. Des groupes de criminels y sèment le trouble. La sécurité fait forcément partie des plus grandes préoccupations en cette fin d'année. Les Nations Unies participent à la protection des populations à travers la mission de stabilisation, la MONUSCO.
La MONUSCO, c'est notre partenaire. Nous collaborons vraiment sincèrement avec la MONUSCO. Au camp d'un incident de protection, au camp de massacres, ou au camp de tuerie, au camp de viol, la MONUSCO ne cesse de nous accompagner dans nos actions. Il y a un numéro vert que nous essayons d'appeler. Ils sont vraiment à l'écoute de tous les problèmes qui nécessitent l'intervention et ils nous viennent en aide. La présence de la MONUSCO est très nécessaire. Nous avons besoin d'eux dans tous les services.
La protection des civils, principale composante du mandat de la MONUSCO. Pour rassurer les populations et dissuader les actions négatives, la force de l'ONU organise des patrouilles régulières. La sécurité à Goma et dans les localités voisines est confiée au contingent indien que dirige le colonel Rawat. Nous participons à l'une de ces patrouilles.
Bonjour, monsieur. Voilà, vous êtes notre traducteur aujourd'hui. Voilà, nous prenons le départ.
Basically, in my own AOR, I have got five.
Il y a cinq quartiers dans le territoire que je couvre. Par exemple, quand il y avait eu les récentes activités de la Loucha ou quand il y a des troubles, ils essaient de protéger les populations locales. Et nous sommes bien préparés et nous prenons position sur des points stratégiques pour les appuyer et les assister quand la situation risque d'échapper à leur contrôle.
Alors parfois, lors de ces patrouilles, les contingents de la MONUSCO descendent, comme c'est le cas ici à Mugunga, le territoire qui côtoie le célèbre volcan Nyiragongo. Les soldats descendent pour mener une patrouille à pied. À pied, ils peuvent voir des choses qu'ils ne pourraient pas identifier lorsqu'ils sont installés dans les pick-up. La capacité de réaction est alors plus rapide, et c'est le cas actuellement. Parfois, il y a les pauses pour discuter avec les populations, échanger avec elles et savoir si elles ont des préoccupations particulières. Je m'avance vers le monsieur qui parlait tout à l'heure avec le militaire de la MONUSCO, le militaire indien. Bonjour, monsieur.
Oui, bonjour.
Voilà, je me fais aider par le traducteur et je demande au monsieur comment ils apprécient ce que fait la MONUSCO ici.
Nous sommes un peu contents du travail effectué par la MONUSCO parce qu'actuellement il y a un peu la sécurité. C'est à cause de la présence de MONUSCO ici. Pour le moment, il n'y a pas de groupes armés ici. Mais ici, nous avons que la présence de MONUSCO et notre armée gouvernementale.
Alors, comme on a constaté tout à l'heure à Keshero, à peu près une quinzaine de minutes de Mugunga où nous sommes, il y a des enfants qui sortent, des gens, des habitants de la localité qui sortent, qui s'attroupent autour des véhicules de la MONUSCO ou qui suivent carrément la MONUSCO dans son évolution, dans sa patrouille quand c'est à pied. C'est le cas, par exemple, avec une petite dizaine d'enfants, de petits-enfants, qui suivent, qui n'ont pas de destination précise, mais qui accompagnent la MONUSCO ou les soldats indiens de la MONUSCO. Ça va ?
Ça va bien.
Vous êtes des écoliers ?
Oui.
Tu fais quelle classe ?
Quatrième.
Quel est ton nom ?
Mousse. Je m'appelle Mousse.
À Mugunga, on peut remarquer que l'habitation n'est pas dense. C'est une région normalement agricole, il y a des champs, mais de plus en plus, avec l'urbanisation, des gens viennent pour construire leurs parcelles pour vivre ici à Mugunga.
Durant nos patrouilles à pied, ils nous entourent. Mais nous, on n'aime pas qu'ils nous entourent comme ça, parce que nous sommes des militaires, nous pourrions être attaqués par des groupes armés. Alors ils ne devraient pas être trop proches de nous.
Les Nations Unies accordent un prix particulier à la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Surtout en cette période de tension politique où des manifestations de la société civile dégénèrent très rapidement. Nous rencontrons Juvin Kombi, membre du mouvement Lutte pour le changement, Lucha, dont la bataille s'oriente actuellement contre le président Joseph Kabila.
C'est pourquoi nous sommes en train de nous battre, n'a pas encore eu de solution que nous attendons. Alors, nous pensons que la meilleure façon de trouver solution à tout ça, c'est de demander peut-être aujourd'hui au président Kabila de démissionner. Lucha, nous sommes des pionniers de cet appel. Est-ce que vous croyez que le même pouvoir qui est en place, qui a refusé de faire respecter l'accord de la Saint-Sylvain, qui a refusé de respecter la Constitution, vous organiserez des élections?
Vous n'avez pas confiance, au fait?
On n'a absolument pas confiance. La confiance devrait se construire avec le temps. Parce que nous avons vu toute la bonne foi avec laquelle ils signaient les accords, mais du coup, ils ne les respectaient plus.
Vous dites que vous n'avez plus confiance dans les autorités, mais au niveau de la société civile, comment voulez-vous que les citoyens congolais aient confiance en vous lorsque on constate que le front commence à se fissurer et qu'il y a finalement, avec le temps, une désolidarisation dans la méthode de revendication?
Il s'agit des stratégies malhonnêtes que les autorités peuvent employer contre notre voix. Mais écoutez, ce peuple nous a vus depuis 5 ans, en train de nous battre pour l'eau, en train de nous battre pour le courant, pour la route. Et tous ensemble, ils sont entrés jour et nuit de comprendre qu'il s'agit de la bonne voie à suivre. Et je voulais demander donc à tout le monde, à la population, pourquoi pas aux forces de l'ordre et aux autorités qui nous écoutent maintenant, que c'est le temps de se rallier, pour nous tous de nous rallier à la raison afin que nous puissions bâtir un Congo fort. Toutefois que j'ai deux occasions d'en appeler aux autorités policières, je leur dis toujours qu'il est d'une occasion capitale que nous puissions comprendre que quelques individus ne peuvent pas prendre 80 millions d'habitants en otage. Et tous ensemble, on croise les bras. Au besoin, on réprime des manifestations qui concourent malheureusement à notre propre bien. Nous nous battons pour que ces policiers aient leur salaire. Je pense qu'il y a eu beaucoup de stratégies qui ont été montées par le pouvoir. Mais je crois tout de même que ça ne nous décourage en rien. Parce que Lucha est de principe un mouvement indépendant. Nous ne soutenons personne. On est très conscient que ces politiciens-là ne sont pas parfaits. Mais nous créons un contre-pouvoir, on l'appelle l'exigibilité du peuple. Nous voulons amener le peuple à être exigeant. Il faut qu'il y ait un peuple quand même qui sait que ça c'est mon droit. Et toute le fois qu'il va dévier, je pourrai réclamer pour que cela me soit dû.
Réclamer ce qui est dû. Certaines femmes de la RDC osent s'engager elles aussi dans le combat.
Nous sommes ici au quartier Mikeno, situé en plein centre-ville de Goma, où se trouve le siège local du parti UNC de Vital Kamerhe, l'Union pour la Nation Congolaise. Nous sommes avec une femme qui s'engage dans ce parti politique. En RDC, les femmes sont très peu nombreuses au sein de l'Assemblée nationale, par exemple, et au niveau des organes de décision. Mais madame, est-ce que vous pouvez vous présenter?
Je suis madame Emerance Magaju, comme venait de le dire, de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC en sigle. Un parti politique de l'opposition ici en RDC.
Opposition et société civile se mobilisent pour exiger le départ sans condition du président Joseph Kabila. Alors, comment est-ce que ça s'organise au niveau de l'UNC et particulièrement au niveau des femmes?
En tout cas, nous sommes en train de nous organiser, de voir comment est-ce que nous allons manifester pacifiquement et aussi massivement pour montrer notre inquiétude.
Oui, qu'est-ce que les femmes comme vous gagnent dans ce combat concrètement? On sait que généralement les femmes sont en retrait. Beaucoup de femmes ne veulent pas parler à notre microphone. Vous êtes une des rares à vous exprimer. Mais qu'est-ce que les femmes gagnent dans une telle manifestation?
Ce n'est pas question de profit ou d'intérêt. C'est question d'aider notre nation. Comme vous le savez, souvent on dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et pourtant, c'est nous, en tant que femmes, qui souffrons. Comme vous le savez, par-ci, par-là, les femmes sont violées dans ces pays. Les femmes subissent des menaces par-ci, par-là.
Surtout dans cette partie de l'Est, hein, de la RDC.
Surtout ça. Et ceux qui sont tués sont nos enfants, sont nos maris, sont nos frères. Donc, en tant que femmes, nous avons cette obligation de manifester, de nous mobiliser et de montrer notre mécontentement. Parce que ce ne sont pas les hommes seulement qui sont créés pour faire la politique. Même les femmes aussi. Il n'y a pas de pays des hommes ou le pays des femmes. Nous vivons dans un même pays, dans un même monde, d'où nous devons nous entraider pour voir comment amener la paix dans notre pays. Et surtout dans ces pays, vraiment, les femmes ont un rôle à jouer. Si elles-mêmes elles sont déterminées, elles peuvent changer quelque chose dans ces pays.
L'épanouissement des femmes et leur engagement dans la vie active, dans la vie politique, c'est ce dont s'occupe une ONG ici à Goma, Aide Profène, qui nous invite à visiter ses locaux. Et d'ailleurs, se tient une manifestation où les femmes sont rassemblées. Nous entrons pour voir ce qui s'y passe.
Aide Profène signifie action et initiative de développement pour la protection de la femme et de l'enfant. Le fait est que dans notre pays, les femmes ne sont pas dans des instances de prise de décision à tous les niveaux. Les femmes ne sont pas représentées.
Est-ce que les femmes ne se retiennent pas quelque peu?
Les femmes sont nées dans des familles qui ont ces traditions, ces doctrines, qui leur transmettent ces antivaleurs, qui les éduquent en leur montrant que la place de la femme, c'est derrière l'homme. C'est au tapis, ce n'est pas sur le sommet. Pour que ce pays connaisse la stabilité, la femme doit être présente dans chaque chose qui se décide et sur tous les niveaux.
La République démocratique du Congo est à une étape un peu délicate, on va dire, surtout sur le plan politique, où les rendez-vous électoraux ne sont pas tenus et ça crée une certaine frustration. Dans cette lutte, quelle est la place de la femme congolaise?
Ça, c'est parmi un des très grands défis. Lorsque tous les traités se font, lorsqu'il y a des dialogues, lorsqu'il y a des concertations, la femme n'est pas là. Et voilà pourquoi, au début des concertations, en 2016, les femmes ont écrit un communiqué de presse pour dire non, non, non. À l'est de la RDC, c'est là qu'il débouche les conflits. Et on se rend compte qu'à Kinshasa, lors des concertations, il n'y a pas de femmes de Goma ou de Bukavu, je ne sais pas moi, de Kisangani qui sont représentées là-bas. Et les femmes ont fait un communiqué de presse ouvert pour dire qu'on n'est pas d'accord avec ça. Ça a fait qu'au deuxième dialogue, quand même, il y a eu deux femmes de Goma, je crois, une de Bukavu, qui ont été invitées par les organisateurs et pour se faire représenter. Ce n'est pas encore ce qu'on veut, mais on essaie de se battre. Mais la décision, c'est à Kinshasa. Aide Profène continue à faire des activités au niveau de Kinshasa, surtout les activités des plaidoyers, mais aussi des activités de réseautage avec d'autres organisations de défense des droits humains qui se trouvent à Kinshasa pour faire passer des plaintes et des situations des femmes en province auprès des autorités à Kinshasa.
Kinshasa, le centre du pouvoir, qui fait l'objet donc de beaucoup de convoitises. Quel message avez-vous à l'adresse de vos consoeurs de Kinshasa? Nous, nous allons partir de Goma pour nous rendre à Kinshasa.
Merci beaucoup, c'est une très grande opportunité pour lancer l'appel. À Kinshasa, c'est aujourd'hui qu'il y a tout le bruit et chaque fois qu'il y a le chaud, c'est là que ça commence. Le 19 décembre 2016, on avait vu les enfants perdre les vies. Les enfants qui sont innocents ont perdu des vues. On a vu les jeunes se faire tirer dessus. Leurs parents, ce sont ces mères-là qui sont à Kinshasa. Je leur demande de ne pas se taire, de se mettre debout et de dire non à cela. Et nous, en province, nous viendrons en appui à leur action pour que tout le pays s'embrase et que les choses changent.
On va voir si l'appel va être entendu et comment il est entendu. Merci beaucoup, Clarisse.
C'est moi qui vous remercie. À santé.
Voilà, moi je suis en train de partir de Goma. Qu'est-ce que je dois dire?
Mubakie salama namusongemele.
Mubakie salama namusongemele. Bye bye.
Bye.
Mwana ya wendo, amba mwana mama shula. General la vira mwana ya wendi
Aba mwana mamashu
E su serge mwana ya wendi
Aba mwana mamashu
Kabule mwana ya wendo
Aba mwana mamashu
Ndanda yendo ya wendo
Aba mwana mamashu
E sengo na mitema
Aba mwana mamashu
Kata tesu ateo
Aba mwana
Bienvenue à Kinshasa. C'est ce que je lis sur une enseigne portant ces mots depuis le hublot à côté de mon siège. Nous arrivons dans les derniers jours avant le fameux 19 décembre 2017, date de début de la campagne de l'opposition et de la société civile pour exiger la mise en place d'une transition politique sans Joseph Kabila. Dans la commune de Limété, entre la résidence de l'ancien opposant décédé Étienne Tshisekedi et la permanence de l'UDPS, son parti politique, nous rencontrons un groupe de jeunes Congolais en pleine discussion.
Vous avez trouvé, on est là, on est en train de discuter. On est des motocyclistes de l'UDPS. C'est pour cela qu'on est là, chaque jour on est là, du matin au soir. C'est pour cela que nous réclamons de l'UDPS. Ici c'est chaud parce qu'on est là. Si on n'y est pas, c'est pas chaud.
Actuellement, on parle beaucoup de l'élection. Certains disent qu'il faut avoir les élections fin 2017. D'autres disent non, on peut attendre fin 2018. Est-ce que c'est un sujet chez vous?
Non, non. Nous, nous réclamons vraiment le départ de M. Kabila. Le problème des élections, on va organiser après le départ de Kabila.
D'ici le 31 décembre, nous voulons son départ. Parce qu'il n'aura ni mandat, ni légitimité, ni légalité. Il y aura des élections dans ce pays, mais pas avec Kabila. Ni sa présence comme président de la République. D'ici le 31 décembre, nous voulons son départ carrément simple. Il s'en va, il nous laisse le pays, ça nous appartient, nous tous.
Mais pourquoi vous exigez son départ coûte que coûte, alors qu'il y a un consensus apparemment soutenu par les partenaires étrangers même, qui disent, bon, on peut calmement organiser les élections le 23 décembre 2018.
Bon, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, je voulais dire seulement ceci. Notre pays, c'est un pays des lois. Le président Kabila, il est illégitime pour le moment parce qu'il est en train de fonctionner. Celui qui avait donné à M. Kabila l'opportunité de diriger ce pays, c'est la Constitution. Pour cette fois-ci, M. Kabila a déjà violé la Constitution. Il est en train de diriger par défi. C'est à ce moment-là que nous, en tant que population, nous demandons son départ.
Si Kabila ne partira pas, moi-même, je dois me te proclamer le président de la République démocratique du Congo. Et là, je vais diriger le pays.
Et le peuple congolais est en train de se mobiliser pour faire partir Kabila par force.
Nous allons appliquer l'article 5 qui dit « La souveraineté nationale appartient au peuple. Nous, on est peuple. » C'est ce que je voulais dire.
Vous n'avez pas peur de la répression? Vous n'avez pas peur qu'on vous arrête dans ces manifestations?
Human Rights Watch publie un rapport que Kabila est en train de recruter le M23. Maintenant, nous savons l'ennemi qui est en face de nous. Nous savons maintenant l'ennemi qui est en face de nous. Nous montons sur des stratégies pour affronter cet ennemi-là. À main libre. Ils vont tirer sur nous, ils marcheront sur nos cadavres. Avant le 31 décembre qui se prépare, on est prêt.
Nous nous sommes déjà habitués avec des tueries. Mais pour cette fois-ci, mais trop, c'est trop.
En tout cas, on a marre de lui, vraiment.
Depuis que la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a publié le calendrier électoral fixant les élections au 23 décembre 2018, le gouvernement se montre intransigeant. Nous nous en rendons compte durant une visite au cabinet de Lambert Mende, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais.
Pour nous, nous sommes un pays démocratique, il est permis de manifester, pourvu que l'usage de ce droit de manifester ne puisse pas faire obstruction aux droits des autres, aux lois et à l'ordre public. C'est pourquoi on demande aux manifestants de toujours coordonner avec les autorités municipales, pas avec le gouvernement. D'ailleurs, je vous réponds, parce que vous me posez la question, je vous réponds par courtoisie. L'occupation de la rue, les manifestations relèvent des autorités municipales et de la police. Donc, ceux qui veulent manifester n'ont qu'à coordonner avec la police, parce qu'il est possible qu'ils veuillent, eux, manifester, c'est-à-dire occuper des espaces publics, alors que d'autres personnes veuillent aller simplement travailler. Donc, il faut que la police puisse réguler l'utilisation des espaces publics. S'ils ne le font pas, ils seront réprimés par la police, comme dans tout État démocratique. Et s'ils veulent se soumettre à ce principe élémentaire de l'État de droit, tout se passera normalement. S'ils veulent aller au-delà de ce principe de l'État de droit, ils n'auront qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Ils seront arrêtés, déférés devant la justice pour violation de la loi et sanctionnés. C'est tout ce que je peux dire.
Pour prendre la température de la jeunesse en cette période de tension, nous décidons de nous rendre sur le site de l'université de Kinshasa, Unikin. Sans surprise, les responsables académiques ne nous permettent pas de sortir le moindre matériel de reportage, même si nous montrons l'accréditation signée de main propre par le ministre en charge des médias, Lambert Mende. Alors nous rencontrons quelques étudiants hors du site universitaire et pour leur sécurité, nous leur attribuons des faux prénoms.
Le site universitaire devrait être un lieu où les étudiants devraient être vraiment en repos pour leur permettre de bien étudier. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous vivons en tension permanente. C'est bizarre, vous trouvez dans un site universitaire, il y a des militaires qui viennent, qui pénètrent jusque dans des auditoires pour arrêter certains étudiants, tirer des coups de balle. Vous trouvez que c'est vraiment déplorable. On n'a plus le goût de rester à l'université. Vous vous dites, là, on est où? Dans les jungles ou quoi?
Eunice, Christian et Lewis, avec vous, c'est aussi un peu la jeunesse congolaise qu'on a en face de soi. Eunice, vous êtes en train d'étudier le droit. Vous allez devenir peut-être magistrate ou bien avocate ou bien vous engager dans une profession dans la justice. Comment est-ce que vous voyez le fonctionnement de la justice de votre pays, la RDC?
Nous étudions bien le droit, on nous apprend le droit, mais ce que nous vivons, c'est vraiment contraire à ce qu'on apprend à l'université. Vous trouvez que la justice n'est pas réelle? Vous voyez comment on n'a pas pu passer cette interview à l'université alors que vous avez l'autorisation? Cela peut déjà vous donner une image d'où est-ce que la justice est à quel niveau. C'est vraiment un défi que nous, la jeunesse, nous lançons. Nous, les avocats et magistrats de demain, nous devons vraiment servir le pays, être juste, appliquer le texte et non nous influencer ses sentiments.
Vous, Christian, vous êtes en agronomie. On sait que la RDC n'est pas n'importe quel pays. Le pays regorge de beaucoup de potentialités. Est-ce que vous avez peut-être des remarques à faire sur la manière dont ce potentiel est exploité?
J'ai même la honte de dire que dans mon pays, les enfants continuent encore de souffrir la malnutrition.
Pourquoi vous dites ça?
Parce que nous avons presque tout. Nous avons la terre arable où on peut cultiver, où on peut produire. Mais nous sommes là, on est en train d'importer les riz, on est en train d'importer des aliments. C'est vraiment une honte pour ces pays. Notre pays a basé son économie beaucoup plus dans les minéraux, c'est ça qui pose un peu problème. Je souhaiterais que l'économie provenant de l'agricole puisse émerger dans ces pays et il y aura une stabilité qui pourra retenir ces pays.
Lewis, vous n'êtes certainement pas d'accord parce que vous êtes en gaz et pétrole. Il dit que le pays se concentre trop sur ces ressources-là et délaisse l'agriculture.
En agronomie, s'il faut exploiter, s'il faut faire l'agriculture, ça va nous demander beaucoup d'hectares, un grand travail. Maintenant, avec les minéraux, une petite quantité, on peut le vendre et avoir des milliards et des milliards. Maintenant, pour parler un peu de mon domaine de pétrole et gaz, c'est juste, je peux dire, la mauvaise volonté. Prenons le cas qui est ici au lac Kivu avec nous, le Rwandais. Il y a du gaz à l'intérieur. Les Rwandais ont déjà commencé à exploiter. Qu'est-ce que nous attendons? Il y aura peut-être la dismigration. Ce qui est de notre côté va passer de leur côté parce que ça va juste immigrer. C'est nous qui allons perdre. Qu'est-ce que nous attendons? Je ne sais pas. C'est pourquoi j'invite nos autorités à prendre conscience de travailler.
À Après notre départ de la République démocratique du Congo, nous apprenons que certaines manifestations prévues par l'opposition ne sont pas autorisées. Le déploiement des forces de sécurité n'a sans doute pas manqué de dissuader les populations. Des manifestations précédentes ont été réprimées, parfois dans le sang.
Lusamba, Annie. Moi, la loi pour la...